Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Emmanuel Faber, PDG de Danone. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, PDG de Danone, groupe français connu de tous et qui vient de fêter son centenaire. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro. Bonjour Alexis. Et Adrien Gindre de TF1. LCI, bonjour Adrien. Vous retrouverez bien sûr vos rubriques habituelles. La question en plus, ce sera Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France, qui vous interpellera, Monsieur Faber, à propos de la transparence des écarts de salaire. Et bien sûr, question nette, vos commentaires, vos questions à Emmanuel Faber. N'hésitez pas à intervenir en direct sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, pour poser vos questions à Emmanuel Faber. Et on retrouvera en fin d'émission Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Alors Emmanuel Faber, c'est un discours devant les étudiants d'HEC qui vous a valu d'apparaître au grand jour. Vous y disiez ceci.
L'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie.
Alors, avec ces quelques mots, vous êtes donné l'image d'un Robin des Bois, en quelque sorte, des grands patrons, très Macron compatibles, qui voudraient concilier profit, bien-être de ses salariés et des consommateurs, et désormais de l'environnement. Vaste ligne de conduite depuis 2 ans maintenant, quand vous devenez, à 53 ans, le PDG de cette multinationale de 100 000 employés, avec un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards d'euros. Mais le fan d'alpinisme que vous êtes, c'est mieux que quiconque, que plus une ambition est haute, et plus elle peut être semée d'embûches, voire nourrir les désillusions. Alors peut-on, par exemple, consommer autant de plastique que vous le faites et se proclamer ami de la nature ? Peut-on vouloir améliorer le quotidien de ses salariés en continuant à distribuer autant de dividendes à ses actionnaires ? La morale, l'écologie sont-elles les ultimes ruses du capitalisme ? Et puis l'homme de foi que vous êtes aussi ne se retrouve-t-il pas tiraillé entre croire, vouloir et pouvoir ? Nous essaierons bien sûr de parler de toutes ces questions en allant vers des exemples très concrets. C'est votre premier grand jury, Emmanuel Faber. Merci d'être ici. La première question vous est posée par Adrien Gindre.
Lorsqu'on parle des entreprises, des grands patrons dans l'actualité, c'est parfois pour parler de leurs dividendes. La France est le pays qui a en Europe le plus versé de dividendes à ses actionnaires ces derniers mois. Est-ce que c'est pour vous le signe d'une économie qui va bien ou au contraire le signe que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond dans la répartition des richesses ?
Je pense que c'est d'abord le signe d'une économie qui va bien. Les dividendes, c'est le résultat d'entreprises dont l'activité au total leur permet de rémunérer le risque qu'ont pris les actionnaires pour les accompagner dans cette aventure. Et donc c'est d'abord un signe de bonne santé. Ensuite, le niveau des dividendes en France, il est en moyenne très largement inférieur à ce qui est versé aux États-Unis ou en Angleterre. Il l'est plus qu'en Allemagne, mais il n'est pas dans un niveau de croissance très très élevé aujourd'hui. Néanmoins, vous touchez un vrai sujet qui est celui de l'équilibre, du partage des richesses que crée l'entreprise. Une entreprise, ça n'existe que parce que ça a une utilité sociale. Ça ne dépend pas que de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle paye ses fournisseurs, il faut qu'elle rémunère ses salariés, il faut qu'elle retourne de l'argent à ses actionnaires. Elle a une utilité sociale et c'est tout cet équilibre dans lequel les grandes entreprises d'aujourd'hui doivent apprendre à naviguer différemment. Parce qu'en effet, par le passé, il y a eu des réglages qui ont été excessifs.
Et justement, il y a une idée qui court. Vous allez nous dire si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. C'est que dans cette répartition entre finalement ce qui va aux salariés et ce qui va aux actionnaires, trop va aux actionnaires, pas assez aux salariés et toujours plus aux actionnaires. C'est une idée qu'on entend. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou non ?
Emmanuel Faber.
Je ne veux pas vous répondre de façon générale. Ce que je peux dire, c'est ce qui se passe chez Danone. Ce qui se passe chez Danone entre ce qu'on achète et ce qu'on vend, c'est-à-dire la valeur qu'on ajoute au total, on a la moitié qui part dans les salaires, il y en a un tiers qui part en impôts, et le reste en dividendes, c'est-à-dire à peu près 20%.
C'est combien en millions ou en milliards les dividendes ?
C'est 3 milliards sur les salaires, 2 sur les impôts, 1 sur les dividendes.
1 milliard sur les dividendes.
Ouais,
et on peut imaginer une clé de répartition entre ce qui va aux uns et aux autres, qui soit la même pour tout le monde, ou ça n'a pas de sens ?
Non. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je trouve ça difficile de répondre d'une façon générale. Parce que tout dépend du cycle d'investissement d'entreprise. Tout dépend de là où elle en est. Prenez des entreprises comme il y a des start-up aujourd'hui qui ont d'ailleurs des valorisations boursières hallucinantes, qui sont incapables de verser le moindre dividende, probablement pour les 10 ans qui viennent. Quand vous êtes à l'inverse, une entreprise centenaire, comme Danone Lev aujourd'hui, avec une activité qui, en France, les Français consomment heureusement pour leur santé beaucoup de yaourts, et pas que des yaourts Danone, boivent de l'eau régulièrement, et tout ça c'est très bien. On ne va pas multiplier par deux la consommation de yaourt en France. Et aujourd'hui, les dividendes, d'ailleurs, et la croissance des dividendes de Danone, ils sont issus des États-Unis, de la Russie, de l'Asie du Sud-Est, de la Chine en particulier.
Mais pas de la France, où il y a eu quand même une crise sociale qui, justement, a mis sur le devant du débat la question des dividendes, Adrien Jean.
Il s'agit bien sûr des gilets jaunes, entre le mois de novembre dernier et le mois de juin dernier, avec des mobilisations diverses, mais un mouvement de fond, une expression d'une crainte et d'une préoccupation en matière de pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez que cette complainte qui est montée sur les questions de pouvoir d'achat était légitime?
Pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement la bonne question. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'il faut l'entendre. Pour une raison qui est la suivante, c'est que les inégalités sont imparables. Un monde totalement égal, ça n'existe pas. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ça ait du sens. En revanche, on sait tous qu'au-delà d'un certain niveau, les inégalités, ne sont pas bonnes pour l'économie, deux, minent les démocraties, et c'est ce qui se passe, et le consensus sur les inégalités évolue à toute vitesse. Il évolue à toute vitesse parce que ce qui était acceptable il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. La génération des jeunes crée des normes sociales partout, c'est-à-dire que la visibilité des inégalités avec les smartphones, elle est présente immédiatement et partout. Et donc, les consensus et les normes évoluent très vite. Donc, ce qui était peut-être acceptable il y a deux ans ne l'est plus aujourd'hui. Et ça, c'est un fait. Alors, la question de savoir si c'est légitime ou pas, c'est un autre sujet. Et donc, il faut en tenir compte. Parce que les inégalités, c'est pas seulement la question des faits, c'est pas seulement une question de réalité, c'est aussi une question de perception. Et il faut travailler là-dessus.
Mais Emmanuel, vous venez de dire quelque chose qui peut interpeller ceux qui nous écoutent et nous regardent. On ne peut pas imaginer un monde sans inégalité. Vous venez de nous dire, vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne idée non plus que d'avoir un monde sans inégalité. Est-ce que, quand vous dites ça, on se dit, quand même, c'est un grand patron, bien sûr, il ne voit là que son profit. Pourquoi on ne peut pas imaginer un monde sans inégalité?
Mais parce que j'ai grandi dans un village dans les Hautes-Alpes, assez loin de ce dont on discute aujourd'hui. Et que l'égalité et l'inégalité, c'est juste une réalité. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'économie? L'économie, ça consiste à essayer de gérer ensemble notre maison commune. L'économie de marché, ça n'existe que s'il y a une notion très très importante, qu'on oublie, mais qui est au fondement même juridique de l'économie de marché, qui est l'équité. Le prix équitable, le juste prix, il est fondamental, et il est fondamental au sens juridique du terme. Aujourd'hui, vous passez des grands accords internationaux. Si vous pouvez démontrer que je suis de mauvaise foi, ou si vous pouvez démontrer que le prix auquel nous arrivons n'est pas équitable, je perds le procès contre vous. Sauf que la réalité, c'est qu'on a laissé les choses dériver dans la pensée générale, dans la pratique générale, et il faut revenir à une forme de tempérance et d'équilibre. Une entreprise, c'est fait d'équilibre.
Pour revenir un instant à ce mouvement social des Gilets jaunes, Au fond du fond, pour vous, la cause, c'est quoi? Ce sont ces inégalités? C'est un malheur plus global? Qu'est-ce qui explique tout ça?
Je pense que c'est la fin d'un grand cycle. Un grand cycle qui a été celui de la croissance des économies occidentales après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu des rattrapages aux frontières technologiques de la France, de toute l'Europe, qu'on a vécu pendant 25 ans avec l'illusion que demain serait définitivement et pour toujours meilleur. Et qu'on arrive aujourd'hui à une situation dans laquelle l'Occident étant là où il est, les grands pays émergents étant là où ils sont, les relais de croissance sont ailleurs et que ça nécessite des transformations dans nos pays. Et c'est très très compliqué pour des générations qui sont rentrées dans la classe moyenne de voir aujourd'hui ces classes moyennes s'effriter. Partout dans les pays de l'OCDE, les classes moyennes
s'effritent. Cette dégringolade, elle est inévitable ?
Non, elle n'est pas inévitable. Simplement, il faut pour ça accepter de la transformer. Et il faut un narratif. C'est-à-dire que dire tout va mal et tout ira mal ne mènera nulle part. Nous, quand on prend chez nous la question de l'alimentation, s'il y a un métier qui est en train de changer, j'imagine qu'on en parlera plus tard, qui est en train de changer, c'est celui-ci, oui. Mais ce qui est très important, c'est de désigner un futur qui soit désirable. C'est-à-dire qu'on sait quels sont les modèles alimentaires, les modèles agricoles vers lesquels il faut aller. Et ensuite, c'est une transition. La même chose doit se passer sur la question de la répartition des inégalités, des revenus, de la place de chacun dans la société. Parce que la classe moyenne a forgé les démocraties occidentales, a forgé l'économie de marché.
Mais justement, Emmanuel Faber, justement, sur ces classes moyennes, qu'est-ce qu'elles réclament? Des salaires plus élevé. Vous le dites vous-même, il faut vous appuyer sur ces classes moyennes et vous craignez leur effritement. Est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter considérablement les salaires dans notre pays, notamment le SMIC, et est-ce qu'il faut aussi parallèlement limiter par la loi les salaires des dirigeants? Par exemple, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon disent qu'il faut un écart maximal de 1 à 20 dans les entreprises.
Beaucoup de questions en
oui,
une seule.
On va
essayer de les traiter dans l'ordre. La première des choses, pour moi, c'est que toutes les entreprises ne peuvent pas avoir le même rôle. On ne peut pas demander à des petites entreprises, à des entrepreneurs qui se lèvent le matin et qui ont 5 salariés, de réfléchir de la même façon à leur écosystème, au futur des classes moyennes dans ce pays, qu'à des grandes entreprises. C'est la raison pour laquelle, le 18 décembre dernier, on a pris à plusieurs, on était 13 entreprises, une décision de créer un collectif.
Donc grandes entreprises.
De grandes entreprises. Un collectif pour mettre en œuvre ce que des grandes entreprises sont capables de faire de mieux dans une situation comme celle-ci. Les grandes entreprises ne sont pas celles qui vont créer le plus d'emplois nets. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, elles sont centenaires, cinquantenaires, les marchés sont matures, donc ce n'est pas là qu'elles doivent pouvoir jouer un rôle. En revanche, elles peuvent jouer un rôle sur la stabilité de l'emploi. Donc on a travaillé sur, et on travaille aujourd'hui, d'arrache-pied, sur la formation, parce que ça, les grandes entreprises sont bien placées pour le faire, l'accueil des apprentissages, l'alternance, l'inclusion et l'insertion des jeunes, parce que ça, on a des dispositifs pour le faire. Et donc, avec ces entreprises qui, au total, représentent des implantations, quand même 50 000 entreprises en implantation dans l'ensemble du territoire français, on sait qu'on a un maillage par lequel on peut agir. Et donc, on s'est engagé très concrètement à ce qu'en 2020, c'est-à-dire dans un an, il y aura 35% de plus d'apprentis dans nos effectifs qu'il n'y en a aujourd'hui. On parle de 65 000 personnes, quand même. Et 6 millions d'heures de plus de formation qu'en 2018. C'est extrêmement concret, mais je crois que c'est nécessaire la situation dans laquelle la France est en train graduellement de transformer son économie.
Alors, on va quand même écouter Cécile Duflot pour la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Faber, Cécile Duflot, je suis la directrice générale d'Oxfam France. Je souhaitais vous poser une question relative à la lutte contre les inégalités et notamment à un sujet qui, pour nous, Oxfam est un sujet majeur, qui est celui du partage des richesses au sein des entreprises. Un des moyens de pouvoir évaluer cette question est de rendre obligatoire ou volontaire de la part des entreprises la publication des écarts de salaire pour évaluer cette évolution. J'aimerais connaître votre position sur cette publication et plus largement sur la répartition de la richesse créée au sein des entreprises entre les actionnaires et les salariés. Je vous remercie.
Sur la transparence des écarts de salaire, ouais. La publication ouais. Des écarts de salaire, Emmanuel Faber.
Je pense que la transparence est de toute façon une donnée de nos sociétés aujourd'hui.
Donc vous allez le faire.
Une donnée de nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire que la perte de confiance des mouvements comme ceux des Gilets jaunes, mais aussi des mouvements des jeunes, qui ne retrouvent pas dans leurs aînés la préparation de l'avenir, elle nécessite une grande forme de transparence. C'est vrai dans tous les domaines. Et donc, de nouveau, pour moi, il ne s'agit pas de savoir si c'est légitime ou pas. Il faut le regarder en se posant la question de savoir si c'est efficace d'y résister ou est-ce qu'au contraire, il faut le faire de façon intelligente.
La question de la légitimité peut se poser aussi quand même.
Pardon
je veux dire, la question de la légitimité de ce genre de transparence peut se poser.
Oui, mais... les jeunes ont le choix, pour beaucoup d'entre eux, de savoir où ils veulent travailler. Pas tous. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais pour ceux qui ont le choix de savoir où ils veulent travailler, il faut écouter ce qu'ils demandent. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un marché du travail, comme il y a un marché de l'économie. Donc, cette exigence de transparence, qu'on la veuille ou non, elle se fera. Des entreprises comme Glassdoor la proposent, avec des limites qui sont les leurs, mais ils la proposent.
C'est-à-dire publier les salaires sur Internet, en effet.
Oui, c'est ça. Et puis tout un tas d'autres moyens. Mais je pense que la question, c'est de le faire intelligemment. En ce qui me concerne, je pense que la publication des extrêmes n'est pas la bonne solution.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est-il chez Danone ? Vous nous le diriez aujourd'hui ou pas, Emmanuel Faber ? Quel est-il l'écart des salaires dans votre entreprise ?
Je voudrais répondre à cette question-là. Pourquoi ? Parce que une entreprise qui est mondiale, elle a des salaires qui sont en Indonésie, au Mexique, en Russie. Il se trouve qu'elle est dirigée de Paris. Si elle était dirigée de New York, mon salaire serait sans doute 4 fois celui que j'ai aujourd'hui. ça ne veut pas dire que cette entreprise serait plus ou moins équitable dans la répartition de ses salaires. Par ailleurs, vous avez des entreprises qui ont des chaînes très courtes. Si nous étions intégrés, que nous ayons nos fermes nous-mêmes, alors qu'aujourd'hui on achète le lait dans le monde entier à des agriculteurs en direct, ça veut dire que c'est le revenu de ces agriculteurs qu'il faudrait prendre en compte. Donc, si pour apparaître dans un ratio acceptable, il suffit de sortir de l'entreprise tous les jobs qui sont mal payés, c'est pas la solution. Donc, je pense qu'il vaut beaucoup mieux parler de répartition générale, c'est-à-dire, je sais pas, le coefficient de Gini qui sert à mesurer
les écarts.
Ouais, mais ça permettrait de donner des statistiques sur la réalité de la cohésion interne des revenus dans une entreprise, qui me paraîtrait meilleure.
Mais en France, très concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'écart de salaire entre vous et le plus petit salaire?
Ben, moi, j'ai un salaire d'1 million d'euros fixe par an, un bonus de 1 million d'euros par an, qui dépend à 60% de la performance économique de l'entreprise et à 40% d'autres éléments. L'innovation, la réduction de l'empreinte environnementale de Danone et la mise en place de notre programme Une personne, une voix, une action, qui est un énorme programme par lequel aujourd'hui tous les salariés de Danone sont actionnaires et perçoivent d'ailleurs un intéressement sur le dividende. Parce qu'au lieu d'opposer les thèmes, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de les relier et de faire en sorte que les différentes parties prenantes de l'entreprise comprennent quel est leur intérêt.
Mais vous avez souvent dit que vous avez l'impression de gagner trop.
Oui, bien sûr, oui.
Mais alors pourquoi pas baisser encore davantage son salaire?
Mais parce que c'est très compliqué, la question du salaire des patrons. Comment vous dire? Quand vous sortez d'une grande école et que le SMIC étant en net 14 500 euros par an, et qu'en premier salaire vous êtes à 60 000 euros, et que 3 ans après vous êtes à 90 000 en moyenne, ça fait 50% de croissance. Vous imaginez bien que ceux qui sont à 90 000, c'est une moyenne sur des promotions de 350 personnes. Les meilleurs sont sans doute les meilleurs. En tout cas, les plus performants pour eux sur le plan de leurs revenus sont sans doute à 200 000 déjà. Donc imaginez que vous reproduisiez ça pendant 15 ans à la progression qui amène quelqu'un un jour à diriger une entreprise de 100 000 personnes ou d'un million de personnes ou de 50 000 personnes. On se retrouve avec des étapes où on a le système d'aujourd'hui qui est celui qui est construit par pyramide. Donc le défaire, c'est extrêmement compliqué parce que une fois que vous aurez réglé mon problème, on va se tourner vers d'autres questions. Il y a un marché du travail qui existe pour les cadres internationaux. Mmh. Si on veut être compétitif, il faut minimum.
Finalement, une efficacité. Obsession malsaine sur toutes ces questions de salaire des dirigeants?
Ah non, pas du tout. Je pense que c'est de nouveau une question de consensus social. On serait en Chine, ça ne poserait un problème à personne. De nouveau, les Américains rigolent quand ils voient le salaire des patrons français. Ouais.
C'est-à-dire c'est propre aux Français, il y a une sorte de haine des patrons en France qui fait qu'à chaque fois on focalise sur leur salaire.
Non, c'est des questions de nouveau, c'est des questions de culture et la culture française est celle-ci. Ouais. En ce qui me concerne, j'ai dit que je n'avais pas besoin de tout ce que j'ai gagné, j'ai rien de plus à dire.
Alors justement, en revanche sur les questions beaucoup plus concrètes, notamment d'emploi, Adrien Gindre.
La lutte contre le chômage fait partie de l'une des priorités du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a un horizon qui a été fixé, 7% de taux de chômage à l'horizon 2022. Est-ce que vous croyez que cet horizon soit atteignable? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous attendez également du gouvernement pour pouvoir embaucher davantage, éventuellement pouvoir vous aussi prendre votre part à cette lutte contre le chômage?
Emmanuel Faber.
Oui, j'y crois. Il faut qu'on y croit tous, d'ailleurs, parce que, et de nouveau, la confiance, c'est absolument nécessaire dans l'économie. C'est parce qu'on va y croire que ça va marcher. C'est aussi simple que ça, dans beaucoup de cas. C'est comme ça que fonctionne une grande partie des mécanismes. C'est pas la méthode Coué. C'est le fait que lorsqu'un consensus émerge et que tout le monde est d'accord pour avancer dans une direction, ça crée cette direction. C'est simplement que l'économie, c'est pas mécanique, c'est de l'énergie humaine. Et donc, quand on la met, je parlais tout à l'heure d'un futur désirable dans l'alimentation, quand on traverse cette révolution de l'alimentation en se disant, on veut qu'en 2025, tous nos ingrédients proviennent de l'agriculture régénératrice, ça indique une direction et on y va tous. Donc, si on se dit 7% de taux de chômage en 2022, il faut que tout le monde y aille.
Mais une fois qu'on dit qu'on y croit, où est la baguette magique qui permet d'y aller?
La baguette magique, c'est la croissance. Et la croissance, elle revient doucement. Il faut qu'elle continue parce qu'on a une reprise aujourd'hui, y compris de l'emploi, avec une assez faible productivité. Et donc,
au bout du bout, le débat...
Soyons très concrets, la croissance, elle est de 1,4% en France aujourd'hui, oui. Elle est d'un niveau assez supérieur à nos partenaires européens, notamment oui. L'Allemagne. Est-ce que vous pensez qu'elle va se poursuivre ou est-ce que vous craignez, comme certains décideurs, qu'il y ait une autre crise économique fondée sur une crise financière? Est-ce que vous craignez cette crise économique semblable à celle de 2008?
Avant la crise financière, je pense qu'on peut assister à un ralentissement qui est lié à toutes les problématiques de commerce aujourd'hui dans le monde. Et les sanctions et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis fait très mal à la Chine en ce moment, avec des conséquences qui sont celles que connaissent l'Allemagne. L'Allemagne dépend beaucoup plus de son commerce extérieur hors de l'Europe que nous.
Donc il pourrait y avoir des retombées chez nous aussi.
Vous êtes affecté par ce ralentissement.
Pardon, juste je termine. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que la croissance de la France sera plus résiliente en face de cet événement-là que celui de quelques-uns de ses partenaires européens.
Oui, Danone, vous êtes affecté par ce qui serait un ralentissement des échanges internationaux?
J'ai deux réponses à ça. Le premier, c'est oui, bien sûr, mais une entreprise centenaire, ça a traversé des dizaines de crises. Alors, on a connu la crise en Russie, on a connu plusieurs crises en Argentine, deux crises en Russie, 98-2004, l'Amérique latine en 2001. Il y a eu des crises. Et notre métier, c'est de nous adapter en permanence. C'est de faire en sorte que l'efficacité de l'entreprise, l'énergie de ses salariés, lui permette de traverser ça. Donc aujourd'hui, le but, c'est non seulement d'être préparé, mais surtout d'avoir l'agilité pour le faire. Le deuxième point sur la question des échanges, c'est que je pense que l'alimentation doit redevenir locale, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais pour des raisons qui sont fondamentales, des raisons écologiques, culturelles, de souveraineté, parce que on s'est tous dit depuis 50 ans que l'alimentation allait de soi, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. La souveraineté d'un pays en matière alimentaire, c'est fondamental.
Juste un mot, on parlait à l'instant, et Adrien vous interrogeait sur Emmanuel Macron, voilà. Que vous connaissez bien, qui vous a confié des missions, que vous voyez régulièrement. Vous diriez quoi? D'abord, est-ce que c'est un ami? Et ensuite, le jugement que vous portez sur finalement sa politique, vous dites ça va dans le bon sens? Oui, non?
Je pense que ça va dans le bon sens, oui. Et je pense que les réglages actuels... qui consiste globalement à faire plus attention aux moyens au-delà de l'objectif et à l'accompagnement sont des bons signes pour le futur. Ouais.
Est-ce qu'il vous a proposé
vous en attendez, vous, pour la suite du quinquennat? On a compris qu'on entre dans un acte 2 auquel vous faisiez allusion. Est-ce qu'il y a encore des réformes, des décisions que vous souhaitez?
J'ai l'impression que les grandes sont prises aujourd'hui. Il faut continuer à mettre en œuvre. La loi PACTE des entreprises, on en parle depuis longtemps, elle n'arrive là qu'en septembre. C'est un exemple qu'on a beaucoup porté, et bien d'autres hein, avec nous, pour arriver à cet équilibrage dans lequel les entreprises sont reconnues dans un rôle qui n'est pas seulement le rôle d'enrichir leurs actionnaires, mais celui de prendre en compte pour les conseils d'administration les conséquences, les enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux de leurs décisions.
C'est le rôle sociétal
et en nommant,
des entreprises, le RSE.
Absolument, et en nommant la raison d'être, qui est un acquis fondamental de cette loi.
Juste une question tout de même, avant qu'on vienne. Est-ce que Emmanuel Macron vous a proposé d'entrer dans son gouvernement ou pas en 2017?
Non.
Est-ce que les précédents présidents ont dit que François Hollande a pu le faire?
Non.
Non plus. Est-ce que c'est une intention ou une ambition que vous pourriez avoir?
Non.
Vous ne ferez pas de politique, Emmanuel Faber?
Non.
D'accord. Alors on va aller maintenant sur les choses les plus concrètes hein, qui ont été proposées et mises en œuvre par Emmanuel Macron, notamment par exemple le bonus-malus sur les CDD, Emmanuel Faber. Est-ce que vous y êtes défavorable aussi comme la plupart de vos collègues dirigeants du MEDEF? Et combien de CDD avez-vous dans votre entreprise?
On a à peu près 1200 CDD dans l'entreprise sur 9000 salariés en France. Donc un taux de précarité qui est autour de 15%, entre 12 et 17, qui tient d'ailleurs à la saisonnalité de certains de nos métiers, et l'eau, Evian, Badois, Salvetta, Volvic, sont consommés par les Français beaucoup plus l'été que l'hiver. Donc ça suppose de s'organiser pour ça. Néanmoins, pour moi, là, il est essentiel de faire en sorte que cette précarité soit circonscrite dans l'entreprise. En 2016, nous avons signé un accord mondial avec nos syndicats. Je dois dire que depuis 30 ans, Danone a des accords mondiaux avec le syndicat mondial de l'agroalimentaire. On est l'une des seules entreprises, c'est le cas. Et donc, on a des accords cadres régulièrement. Le dernier en date, il est sur l'emploi durable. l'emploi durable, parce qu'on estime que le meilleur moyen de protéger les salariés et donc de les inscrire dans la dynamique qui va leur donner l'énergie et le talent pour longtemps dans l'entreprise, c'est les CDI avec la formation qui va avec. Le résultat, c'est qu'on a circonscrit ça. Je suis, moi, favorable aux mesures qui vont permettre de réduire encore le recours.
Donc à ce bonus-malus.
Absolument. Alors, c'est compliqué, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire.
Autre question.
L'un des grands enjeux du moment, Emmanuel Faber, c'est la question de du temps de travail. Il y a plusieurs manières de toucher au temps de travail. Il y a eu un temps la question de la durée du travail hebdomadaire. Est-ce qu'il faut travailler plus que 35 heures, revenir sur cette réforme, l'assouplir encore? Et puis il y a aujourd'hui surtout le débat sur la durée du temps de travail dans la vie. Est-ce qu'il faut travailler plus tard? Est-ce qu'il faut cotiser davantage d'années, repousser l'âge légal de la retraite? Vous, est-ce que vous avez un avis sur ces questions-là?
Emmanuel Faber.
Je trouve que c'est très très compliqué. C'est un jeu... dans lequel la mécanique est extrêmement délicate, où à la fois on est en face de générations qui ont cotisé pendant très longtemps et qui attendaient et attendent l'issue de cette situation pour eux, et en même temps, de l'autre côté, des jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, sont en train d'attendre de pouvoir rentrer dans les entreprises. Donc au-delà de la question de savoir comment, ici en France, mais ailleurs, dans plein de pays, la question va se régler sur le plan... législatif. Pour moi, le vrai enjeu en tant que chef d'entreprise, c'est comment est-ce qu'on invente des entreprises dans lesquelles trois générations vivent ensemble. Quels sont les moyens de faire en sorte que pour les personnes qui ont acquis beaucoup de seniorité, d'expérience, elles laissent graduellement la place à des jeunes qu'on a besoin de faire entrer.
J'ai fait parler si on travaille plus longtemps. Ça voudrait dire des seniors encore plus seniors si on travaille plus longtemps.
Oui et non, parce que vous avez aussi beaucoup de cas dans lesquels on peut trouver des systèmes où graduellement les gens travaillent moins par semaine, du coup. Mais ça suppose de revoir un certain nombre de systèmes de retraite. On est en train de le faire, nous, sur les complémentaires chez Danone. Et les retraites complémentaires, c'est un élément important de la valorisation sociale des grandes entreprises. Et c'est sur ce volet-là qu'on est en train de travailler pour pouvoir aménager des fins de carrière qui permettent aussi d'accueillir des jeunes.
Donc vous n'avez pas fait votre religion, j'allais dire, sur un délai rallongé de la durée de travail de notre pays, c'est-à-dire jusqu'à 65 ans.
Je pense que la durée de cotisation a du sens.
Mais pas l'âge pivot, l'âge légal.
Et le reste, je ne sais pas, franchement.
D'accord. Alors, est-ce que sur les allocations chômage, en revanche, vous avez un avis, puisqu'elles vont être réduites pour les cadres? Est-ce que là, vous vous dites que ça peut être aussi un levier pour diminuer le chômage dans notre pays? Très rapidement, on arrive à la pause.
Oui, pardon. Il y a des pays dans lesquels la couverture de chômage est beaucoup plus courte, y compris des pays comme le Danemark, qui sont très avancés aussi sur le plan de leur réflexion sociale et sociétale. Et je pense que sans aller jusque-là, parce que le contexte n'est absolument pas le même, c'est une chose à envisager.
C'est pas tellement une question de durée d'indemnisation, si j'ai bien compris, mais plutôt de niveau d'indemnisation. Et ils disent, bon, finalement, on sera beaucoup moins indemnisé qu'on l'était avant.
Oui, mais ça a mécaniquement un impact sur la durée.
Ça va avoir un impact, en tout cas, sur la recherche de travail.
Absolument.
On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury d'Emmanuel Faber. À tout de suite.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le PDG de Danone, Emmanuel Faber. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI, Alexis Brézé du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, Emmanuel Faber, vous nous avez dit tout à l'heure que l'environnement était au cœur de vos préoccupations, au cœur du préoccupation du groupe Danone. On sait qu'une des principales sources de pollution sur la planète, ce sont le plastique, les matières plastiques et les bouteilles en plastique. Et il se trouve que Danone est l'un des plus gros, peut-être le plus gros producteur de d'eau en plastique, donc de bouteilles en plastique. Est-ce que c'est pas un petit sujet pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour sortir de ça? Est-ce que vous allez nous dire il faut revenir à l'eau du robinet?
Non, je vais vous dire que... La préservation des ressources en eau dans le monde est fondamentale parce que, de même qu'il y a un droit à l'alimentation, il y a un droit à l'eau. Et quand il n'existe pas, les gens le prennent. Donc l'eau, c'est un sujet fondamental sur lequel, depuis des millénaires, les gens se déplacent pour avoir de l'eau. Depuis des dizaines d'années en Europe, la question du caractère plus ou moins salubre de l'eau se pose. Et nous, notre métier, c'est l'eau de source, c'est-à-dire une eau qui est issue entièrement de la nature, à laquelle nous ne touchons pas. Ce métier est essentiel, parce qu'on n'arrivera jamais à faire en sorte que dans les 1% d'eau de la planète qui sont disponibles pour les humains, elles soient absolument là où ils vivent. Donc le transport et l'embouteillage est nécessaire. Je termine. En revanche, il faut réinventer le système. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les systèmes de transport, c'est clair, et les systèmes d'emballage. Parce que le plastique est apparu dans l'économie humaine et dans nos vies depuis une centaine d'années. On ne peut pas en sortir du jour au lendemain, mais il est fondamental qu'on se transforme.
À terme, on peut s'en passer ?
À terme, on pourra s'en passer, absolument. Danone travaille, nous travaillons aujourd'hui déjà sur la réduction du plastique vierge, c'est-à-dire que la totalité de nos bouteilles aujourd'hui en plastique inclut du plastique recyclé. 100% de PET recyclé sur la bouteille Volvic 8 litres qui a été lancée cette année. 50% sur le 1,5 litre d'Evian. Dans deux ans, on saura venir avec des emballages qui seront faits entièrement à partir de déchets végétaux. Et non
pourquoi
plus
c'est si long, Emmanuel Lebert, dites-nous, attendez, parce que...
Mais c'est très long, parce que...
C'est d'ici 2025 que vous voulez que tous vos emballages plastiques soient recyclables. On se dit, mais pourquoi pas accélérer tant le danger est présent, imminent.
Y compris parce que l'Union européenne, qui d'habitude met plutôt 3 ans au minimum à formuler ses directives, a mis 3 semaines l'année dernière à en formuler une sur l'usage des plastiques uniques, donne une directive à l'horizon 2025 de 90% de taux de recyclage.
Et vous pourriez anticiper ?
On va faire, évidemment, on va faire tout ce qu'on peut pour l'anticiper. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'anticiper tout seul. En France, 56% des bouteilles sont recyclées. 80% dans beaucoup de villes de province, mais 10 à 15% à Paris.
Il n'y a pas de capacité de recyclage suffisante
en
France.
Il faut la créer. Il faut donc investir.
Ça, vous le dites au gouvernement.
On le dit, et on se le dit à nous.
Donc
on
vous allez créer des usines de recyclage, vous
pour... Nous, on est favorable à la consigne des bouteilles en plastique. Je pense que c'est vraiment une bonne solution.
Concrètement, comment ça se passe ? C'est comme autrefois les bouteilles en verre, on les rapporte.
Vous les rapportez, il y a une machine dans laquelle vous les mettez, et au magasin, vous les avez trouvés, ou n'importe quel autre magasin, et on vous rend probablement 10 centimes.
Ça, aujourd'hui, ça existe ?
Ça existe dans beaucoup de pays. Ouais. C'est testé depuis plusieurs années en France, mais ça suppose de revenir sur des pratiques à la fois des consommateurs, des entreprises, des distributeurs.
Donc vous allez vous associer à cette démarche-là. Juste en tant que citoyen, mais Emmanuel Faber, qu'on comprenne bien, beaucoup maintenant de gens culpabilisent quand ils achètent une bouteille en plastique parce qu'on leur dit que ça pollue les océans. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous consommez beaucoup d'eau minérale ou est-ce que vous consommez de l'eau du robinet ?
Moi, je consomme de l'eau minérale dès que je peux.
Pourquoi ? Parce que vous considérez que l'eau en France n'est pas aussi bonne ?
Parce que c'est un choix que je fais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, de nouveau, je pense qu'il y a une variété de modèles qui vont exister dans le futur. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à consommer de l'eau du robinet, bien évidemment, en France en tout cas. J'ai vécu 3 ans en Chine, je peux vous dire que ce n'est pas un luxe qu'on peut avoir. Je suis allé pendant des années et je vais continuer à aller en Indonésie. Donc on sait que de toute façon, l'eau du robinet ne pourra satisfaire qu'environ 10 à 15% des besoins de la planète.
Mais est-ce que ce serait pas la priorité, plutôt Emmanuel Faber, de se dire on doit mettre le paquet sur l'assainissement, sur le fait de rendre l'eau du robinet potable, utilisable, plutôt que de se dire comment...
C'est un débat vraiment difficile. Vous consommez 140 litres d'eau en moyenne, en France, par jour. Vous n'en buvez que 1 à 2 litres. C'est-à-dire que 1% seulement de l'eau du robinet, vous la buvez. Quel sens ça a de rendre potable cette eau durablement dans tous les pays du monde, y compris là où les infrastructures n'existent pas, pour avoir l'eau au robinet ?
Donc c'est un mauvais modèle ?
Non, pas du tout. C'est un modèle qui peut exister là où il a du sens,
pour la proportion d'eau
qui est très coûteux pour le futur. Et de nouveau, je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on va réinventer dans les 15 ans, 20 ans qui viennent ? Mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est que cette urgence climatique, elle est là. Cette urgence de l'environnement, elle est là. Mais les solutions vont prendre du temps à émerger. Ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas. On a pris avec
du temps et de
quatre
l'argent.
Grandes entreprises la décision de travailler ensemble, mettre ensemble nos recherches mondiales pour trouver aussi vite que possible les solutions au plastique. On peut faire mieux sûrement. Hein. C'est des centaines de millions d'euros d'investissement qu'on va mettre en place dans les 3, 4, 5 ans qui viennent pour arriver à sortir de cette dépendance.
Mais vous nous dites, un jour, les bouteilles de Danone seront des bouteilles à 100% en plastique recyclé ou
en
verre. Autre chose qu'en plastique.
Ou en verre ou en matériaux polymérisés de déchets agricoles, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, par exemple, on a aux États-Unis, on sait faire une bouteille dans nos laits végétaux de la marque So Delicious, qui est la sœur de Alpro en France. Une bouteille qui a 80% en déchets de sucre de canne.
Oui.
Bah, 80%, c'est pas encore 100, mais c'est déjà 80. Et deuxièmement, elle n'est pas encore transparente et il faudra probablement qu'elle le soit. Donc, tout ça, c'est des techniques qui demandent beaucoup de recherche. Je pense qu'en effet, on fait partie des quelques entreprises qui travaillent le plus là-dessus.
Et ça, ce type de bouteille se dissout et ne pollue pas?
Absolument. Ça veut dire qu'elle est dégradable à condition de température et d'hygrométrie définie dans des biodigesteurs. Alors, comme il en existe
Manuel
dans
Faber,
beaucoup d'endroits.
Vous avez cité beaucoup de marques de votre groupe. Déjà quelques-unes.
J'ai fait un effort pour rester
ça. Très habilement, vous l'avez fait. Il y a une de vos bouteilles, la goutte, c'est un plastique pour 20 centilitres d'eau d'Evian, pour ne pas citer cette marque. Et il y a eu une pétition Change.org qui a reçu plus de 150 000 signatures pour vous demander, vous, au groupe Danone, de cesser de commercialiser cette goutte, donc, avec 20 centilitres d'eau pour une forte consommation de plastique. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Ça tombe très bien, on est en train de l'arrêter. On est en train de l'arrêter, et je peux vous dire que, évidemment, la réflexion a démarré bien avant. Cette pétition, elle montre quelque chose, elle dit quelque chose. Vous savez, je suis passé dans un magasin de vrac, je vais revenir tout de suite sur votre question. Passé dans un magasin de vrac il y a quelques semaines, avant l'été, où on testait une machine de yaourt en vrac. Mmh. J'ai posté ça sur Twitter et LinkedIn. J'ai eu quasiment 1 million de vues. Donc 150 000, c'est beaucoup. Mais 1 million de vues, ça veut dire que les gens ont envie que ça change. Donc quand les gens, qu'on se dise de nouveau que ce soit légitime ou pas légitime, les consensus sociaux, c'est une évidence.
Mais faut-il attendre que les citoyens poussent à cela, Emmanuel Faber, c'est ça qu'on se dit, mais je reprends la goutte, alors que vous savez que la consommation de plastique est importante, c'est le rôle sociétal de votre entreprise.
Pardon, on l'a créé parce qu'à l'époque c'était une très très bonne idée, parce que avec un emballage souple, on économisait 30% de plastique au lieu d'un emballage plus rigide, puisque il n'a qu'un seul usage. Il n'y a pas de bouchon, donc vous économisez tout le plastique du bouchon. Il y a juste un petit opercule. Et en plus de ça, il y avait déjà 20% de PET recyclé. Ouais. C'était à l'époque, ça a été perçu comme une très bonne idée. Vous évitiez le gaspillage, vous aviez 20 centilitres là où vous n'aviez pas accès à l'eau et c'était fini. Mais c'était une autre époque. Ce qu'il faut mesurer, c'est la vitesse à laquelle l'époque change. Quand je parle de la révolution de l'alimentation, c'est une réalité.
On est en train de l'arrêter.
Donc on est en train de l'arrêter.
Mais ça veut dire quoi ? Vous l'arrêtez quand ?
À la fin de l'année, ce sera arrêté.
Il n'y en aura plus.
Et c'est resté confidentiel au sens des ventes de ce produit. Et donc on l'arrête à la fin de l'année. On va d'ailleurs remplacer la ligne par la nouvelle bulle Evian flexible à domicile, qui, je crois, est dans l'air du temps d'aujourd'hui.
Ça, ce sont des contenants beaucoup plus importants.
5 litres oui, en PET concrète. 100% recyclé, flexible.
Adrien Gindre, toujours sur l'écologie et l'Amazonie.
L'Amazonie qui brûle depuis plusieurs semaines, qui a beaucoup fait réagir parce qu'on dit que toute cette déforestation vise à nourrir l'agriculture, des agricultures extrêmement dangereuses pour la planète, pour le soja, pour l'huile de palme. Est-ce que ce sont par exemple vous des produits, le soja, l'huile de palme, dont vous pouvez vous passer, dont vous allez vous passer pour contribuer à préserver la planète ?
Je vais répondre sur la... Ouais, je vais vous répondre.
Oui, c'est gentil.
on va dire ça. La première des choses, c'est que le modèle agricole dominant depuis 50 ans, c'est un modèle qui part de la science de la chimie et les biosciences. Il ne part pas de la nature et de la réalité de ce qu'elle produit elle-même, c'est-à-dire la biodiversité. Mmh. Et ça, c'est fondamental. On ne résoudra pas le problème de l'Amazonie si on continue à imaginer que la solution pour l'agriculture, c'est toujours plus d'intrants chimiques, toujours plus de performance, sans regarder ce qui se passe dans le sol, pour que la plante puisse pousser. Mmh. Or, elle vient du sol. Et le sol, aujourd'hui, les sols sont dégradés. La déforestation entraîne de la dégradation des sols. Aux États-Unis, 70%. Dans le monde, 40% des sols sont dégradés. C'est quoi un sol qui est dégradé ? C'est un sol dans lequel, au lieu d'avoir 2 tonnes de vers de terre, comme vous l'avez en forêt, vous en avez 100 kilos, comme dans les grandes plaines de Beauce en France. Au lieu, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de matière organique dans le sol. Le carbone est sorti. Il représente les 2/3 de la matière organique dont le sol a besoin pour vivre et dont les plantes ont besoin pour pousser d'elles-mêmes. Donc l'urgence, c'est de retrouver des solutions agricoles, et elles existent, où on va sortir de la dépendance, y compris sur le plan des subventions, aux intrants, aux pesticides, aux herbicides, pour rentrer dans une alliance avec la nature qui soit différente.
En attendant, Emmanuel Faber, est-ce que vous dites qu'on peut faire un moratoire sur l'importation de ce soja peut participer à la déforestation ?
Volontiers en France. Si on prend nos fermes en France, nous on travaille avec 2000 éleveurs en France, laitiers. des fermes qui font 70-80 vaches, donc c'est pas des fermes géantes, c'est des fermes familiales. 80% des rations protéiques sont cultivées sur la surface agricole de la ferme, et 20% sont complétées avec des rations de soja qui viennent de France et qui viennent d'Argentine ou du Brésil.
Sur cette ration d'Argentine,
c'est 3% au total. Donc oui, moi je sais faire 100. Sauf que l'Europe au total dépend à 70% de ses importations pour les rations protéiques de l'Europe. Pour l'élevage, la viande en particulier, mais pas seulement pour les volailles, pour etc. Donc le moratoire qu'il faut faire, et il est urgent, je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai partagé avec le gouvernement. L'année prochaine, c'est la PAC, la réforme de la politique agricole commune. On a une opportunité dans les mois qui viennent, compte tenu de ce que le président français a décidé de faire sur le Mercosur, c'est d'introduire dans le Mercosur des clauses qui permettent de valoriser l'agriculture européenne quand elle est une agriculture régénératrice et de pénaliser les produits agricoles qui rentreraient en Europe parce qu'ils ne sont pas dans une agriculture régénératrice.
Mais Emmanuel Faber, on ne va pas le signer, le Mercosur. Le Mercosur, le président de la République a dit qu'il n'était pas question qu'on le signe. Vous pensez que c'est juste un effet de manche? Non, mais est-ce que vous pensez qu'il faut l'aménager et le signer?
Non, je dis qu'il faut profiter de ça parce que ce n'est pas à l'échelle de la France qu'on peut le faire de façon efficace, c'est à l'échelle de l'Europe. Et en Europe, en ce moment, il y a des vraies réflexions sur comment on introduit.
Danone ne le fera pas.
Mais on peut le faire tout seul, mais on ne va pas résoudre le problème.
On peut, mais
de nouveau, les choses se font. Quand on crée un collectif d'entreprises en France, ça s'appuie sur des entreprises comme Engie et Schneider sur l'insertion, comme Renault et BNP sur les produits. Jean-Dominique Sénard, qui est ici présent, a travaillé sur la loi PACTE. On ne fait pas les choses tout seul.
Mais pourquoi pas? Pourquoi vous ne donneriez pas l'exemple, justement?
Mais parce qu'on le fait.
On ne prend pas de soja.
Je vous donne un exemple. 2016, aux États-Unis, grand débat au Parlement sur faut-il étiqueter les OGM. Au milieu de ce débat, nous avons décidé, un, d'étiqueter les OGM sans attendre le résultat de ce débat, et deux, de sortir la moitié de notre production des OGM aux États-Unis.
Donc
Un milliard de dollars de vente de produits laitiers frais, leader américain.
Dans lequel entrée
Donc
des
on
OGM,
fait.
Pardon. De produits dans lequel entrait des OGM et qui...
Entrait du fourrage OGM dans la ration des vaches.
Non, mais sûr.
Et pendant 2 ans, on a investi des dizaines de millions
de
dollars.
Donc là, vous avez montré l'exemple.
Absolument.
Eh bien, sur le soja, vous dites que ça dépend de l'Europe. Autre exemple, autre chose.
Non, pas du tout. Je ne dis pas que ça dépend de l'Europe. Je le fais, mais nous, comme ça n'est que 3% de nos rations, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Mais c'est pour ça qu'on dit aussi en France et qu'on va le faire. L'année dernière, on a consacré un jour de chiffre d'affaires le 21 septembre, qu'on a appelé le Green Day, le jour vert de Danone. Toutes nos marques en France, l'ensemble du revenu a été consacré 5 millions d'euros à l'agriculture régénératrice. La baisse du glyphosate et des pesticides, la conversion au bio de nos agriculteurs en amont de
Mais est-ce que vous ne devriez pas aller plus loin? Et par exemple, pour reprendre un autre exemple concret, outre le soja, le glyphosate, vous savez qu'il y a un grand débat dans notre pays, que finalement le glyphosate devrait être interdit d'ici 2021. Est-ce que vous pourriez prendre la décision, vous, de dire, eh bien, on ne va plus utiliser de produits qui viendraient de champs traités au glyphosate?
On est en train d'y travailler, ouais, très sérieusement. Et en ce qui me concerne, je pense qu'on peut sortir du glyphosate. Faut pas...
Avant 2021?
Non, c'est alors 2023, dit l'Allemagne, 2022, l'autorisation européenne.
Et nous sommes sur 2021, voilà. Avec des exceptions, a dit le président de la République.
Absolument. Donc, je pense que dans ce délai-là, on peut sortir du glyphosate. Oui, c'est très difficile. Il faut que vous le sachiez pour les agriculteurs qui travaillent tous les jours dans les champs. C'est très difficile.
Mais est-ce que vous habiteriez, Emmanuel Faber, dans une maison qui se situerait à moins de 5 ou 10 mètres d'un champ où il y aurait utilisation de glyphosate?
J'en sais rien, c'est pas le cas. Mais j'en sais rien. En revanche, moi, je parle très fréquemment et je rencontre très fréquemment les agriculteurs, ceux qui travaillent avec nous et pas seulement. Et ils vous disent tous qu'ils en ont marre que les habitants des villages ferment les volets quand ils sortent épandre leurs champs. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, c'est pas 5 mètres qui va régler le problème. Il faut être juste clair là-dessus. Donc,
quel est un des projets du gouvernement?
Et donc, il faut en sortir du glyphosate. Il faut en sortir. Mais ne négligez pas la complexité que ça va être pour toute cette génération d'agriculteurs de passer à autre chose. Parce que ça passe par ce que je vous décrivais tout à l'heure. Soit on se met à relabourer des champs, et c'est très compliqué, y compris sur le CO2, soit on se met à travailler avec la biodiversité. Permettez-moi une seconde là-dessus. Ça consiste globalement à faire alliance avec les processus naturels, à retravailler sur la santé des sols et à y retrouver là les nutriments naturels des plantes. Des exemples très simples. Des plantes vont bien ou vont mal ensemble. Si on met celles qui vont bien ensemble, ça marche. Si on met celles qui vont mal ensemble, ça permet de faire de l'éco-toxicologie, c'est-à-dire que vous passez de pesticides. Il y a des insectes qui permettent sur la vigne, la tordeuse de vigne, il y a une guêpe qui permet de lutter contre elle. Depuis longtemps, et dans le Bordelais, on le sait. Mais c'est des pratiques qui sont des vraies pratiques de changement. Donc on ne peut pas demander aux agriculteurs de faire ça sans les accompagner dans cette transition. C'est pourquoi, chez Danone, on les accompagne. Nous payons cette transition et c'est essentiel, mais je pense qu'on doit aller plus loin. C'est-à-dire que, et de nouveau avec d'autres entreprises, on a une discussion en ce moment avec le gouvernement sur la mise en place d'un fonds de transition de 500 millions d'euros dans lequel il y aurait de l'argent public, mais surtout beaucoup d'argent privé pour financer cette transition.
Très rapidement, ma question express, Adrien.
Et est-ce qu'il faut aller, vous parliez de révolution, jusqu'à finalement se priver de production animale? Vous disiez que notamment Danone fait moins de produits laitiers et plus de produits à partir de végétaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut accompagner et aller jusqu'au bout, comme le disent les véganes?
On a fait un grand virage, puisqu'on est aujourd'hui leader mondial du bio et leader mondial des alternatives végétales au yaourt et au lait.
Donc on oublie le lait?
Non, je ne l'oublie pas. Je dis on est leader mondial de ces alternatives. Il y a 3% de véganes dans la population. C'est pas un nombre qui augmente énormément. En revanche, les gens adoptent des diètes qui sont flexibles, des pratiques alimentaires qui changent. Il est nécessaire de consommer moins de viande et de meilleure qualité. Mais l'élevage est fondamental pour l'agriculture. On pourrait y passer longtemps, on va pas le faire, mais on ne sait pas faire tourner l'agriculture en Europe, y compris sur le plan environnemental, sans l'élevage. Parce que le pâturage, ce qu'il faut, c'est sortir les vaches des ranchs ou des bœufs, d'ailleurs, des ranchs industriels dans lesquels ils sont aux États-Unis et parfois en Europe, réintroduire du pâturage qui est vertueux pour les cycles agricoles et donc nécessaire dans l'équilibre. Donc c'est moins de viande, c'est pas de viande.
Alors, et du lait, toujours?
On en parle. Et du lait, absolument. Et du yaourt en particulier, je vais faire la liste des marques.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, question nette.
Non, c'était Question Express pour ou contre Emmanuel Faber, quelques propositions que je vais vous donner. La PMA pour toutes les femmes.
Je ne sais pas.
Vous n'avez pas d'avis là-dessus?
Je ne sais pas. Je veux dire, c'est un sujet compliqué et je ne sais pas.
Pour ou contre la fin du grand oral à Sciences Po?
Pour.
Pour ou contre la réforme?
Vous ne me demandez pas pourquoi, là. Non.
Alors dites-moi, pourquoi? Parce que vous trouvez que ça permet plus d'accès à la diversité?
Plus de diversité.
Plus de diversité. Pour ou contre la réforme du bac?
Sans doute, oui.
Pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris?
Pour.
Juste en termes de... Alors, vous êtes pour. On a dit d'Emmanuel Macron qu'il pouvait être le président des patrons. Quand vous entendez ça, vous dites, tant mieux ou pas?
Je ne sais pas si c'est vrai. Non, je ne vois pas pourquoi...
Vous avez dit quand même qu'il comprenait l'entreprise.
Je n'ai pas dit ça non plus, d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas ce qu'il est en train de faire sur le plan économique. Hein, mais de façon concrète... Je pense qu'il est président de la République et c'est très bien comme ça, non?
Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous avez voté en 2017 pour lui, pour le président de la République?
Non, j'ai décidé, et je m'y tiendrai, de ne dire à personne, même dans ma famille, pour qui j'ai voté.
Est-ce que vous avez soutenu un temps Christine Boutin en 2012? Est-ce que vous avez participé à son financement de sa campagne? Faux?
Non. Non, jamais.
D'accord, non, parce que je crois que vous l'aviez dit dans un papier, mais ce n'est pas le cas. Alors vous confirmez que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas proche de ces idées-là?
Non, j'ai contribué avec elle à un livre sur la fragilité, où on était plusieurs auteurs. Et j'ai travaillé avec Christine Boutin lorsque le président Sarkozy lui avait confié une mission sur la mondialisation et le rôle social de la mondialisation.
C'est parce que je pose cette question, parce que ça pourrait éclairer ce que vous venez de nous dire sur la PMA, je ne sais pas. Pour vous, c'est pas
naturel. C'est des débats qui sont privés, donc qui concernent la vie privée des gens, quoi, c'est tout. Donc je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet-là.
Et donc maintenant, c'est l'heure de questions NED avec Marie-Pierre Haddad. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour à tous, bonjour Emmanuel Faber. Alors j'ai consulté le site de Danone en long, en large et en travers, et vous évoquez sur ce site à plusieurs reprises le bien-être animal. Vous dites que c'est très important pour votre groupe, et il y a une association, elle, qui dénonce justement le traitement des animaux dans les abattoirs, c'est l'association L214, vous devez la connaître. Elle diffuse des vidéos d'animaux maltraités qui sont en souffrance, et à chaque fois ces images choquent et elles deviennent virales sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous soutenez cette association et est-ce que vous approuvez le fait qu'elle prenne des vidéos dans les abattoirs et qu'elle les montre au grand public?
Oui.
C'est une bonne chose, il faut la soutenir davantage. Oui. Et est-ce que vous trouvez
Il y a besoin de lanceurs d'alerte dans cette société, sinon les choses ne bougent pas assez vite. Et c'est pareil sur le climat, c'est pareil. Donc ça nous emmerde, voilà. Ça, mais il faut qu'on soit choqué par ça, sinon les choses ne bougent pas.
Et le gouvernement, est-ce qu'il en fait assez? Il a fait passer une phase de test pour justement mettre des caméras de surveillance dans les abattoirs et il s'est arrêté là. Il n'a pas été plus loin. C'est une erreur d'après vous?
Je ne sais pas.
Et dernière petite question sur l'association. Il lance une pétition justement contre l'élevage intensif dernièrement. Est-ce que vous comptez la signer?
Il faudrait que je la lise. Mais j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'élevage intensif. Si c'est ce que j'ai en tête, je peux peut-être la signer, oui.
D'accord. Ensuite, c'est sur Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle est régulièrement interpellée sur les réseaux sociaux. Elle est renvoyée à son passé de DRH, directrice des ressources humaines chez Danone. On l'a encore vu avec des commentaires sur notre appel à questions sur notre page Facebook. Donc certains internautes lui reprochent la mise en place d'un plan de licenciement avec une suppression d'environ 900 postes dans 26 pays. C'était en 2013. Est-ce que vous, vous trouvez que Muriel Pénicaud, elle a bien été formée chez Danone et que c'est une bonne ministre du Travail?
Alors je vais répondre à la première question, pardon, à la première partie de la question, c'est que d'abord le plan de 2011, j'en assume entièrement la responsabilité. J'étais directeur général délégué à l'époque. C'était un plan de simplification de nos organisations, des niveaux de management en Europe. On l'a fait. Je pense que c'est très très important pour une entreprise de travailler sur son efficacité. Et la question, c'est comment on le fait. Et les plans sociaux chez Danone, c'est jamais drôle, c'est toujours un dernier recours, mais c'est exemplaire sur le plan de l'accompagnement des personnes. Et ça, c'est absolument nécessaire.
Est-ce qu'il y en aura d'autres dans les jours, dans les
mois? Comment voulez-vous que dans la vie d'une entreprise centenaire, je puisse vous dire qu'il n'y en ait pas? Je me bats tous les jours pour qu'il n'y en ait pas. On se bat tous les jours
mais
avec mes collègues.
Mais pour y en avoir, vous craignez que vous soyez obligé d'en faire?
Comment vous pouvez imaginer, à la vitesse à laquelle les choses évoluent, qu'il ne puisse pas y avoir de plan social forever, pour toujours?
Bah
de
non, nouveau. Mais dites-nous dans l'immédiat. Moi, parce que,
mais non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas.
Quelques années, vous craignez qu'il
n'y en a pas. Je reviens sur la question. Muriel Pénicaud, elle a laissé aussi chez nous Danone Care, qui est la couverture sociale mondiale de tous les salariés chez Danone. 80 000 personnes qui n'avaient pas de couverture sociale, accès à l'hospitalisation, aux consultations et à la maternité en Indonésie, en Russie, en Thaïlande, en Afrique. Ça n'existait pas. Et elle a laissé avec Martin Hirsch, qui est ici avec moi également, le fonds pour l'écosystème, fonds Danone pour l'écosystème, par lequel je suis allé demander à l'époque 100 millions d'euros à nos actionnaires pour les investir dans tous les petits jobs qui sont autour de Danone. Tout l'écosystème qui va des agriculteurs jusqu'aux personnes qui travaillent dans les décharges à Jakarta et ailleurs. Donc c'est un bilan qui est un bilan complet de RH à faire et... Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Et une dernière question. Le président brésilien Bolsonaro a menacé de boycotter l'entreprise française BIC. Est-ce que vous, vous qui êtes Danone, qui est implanté au Brésil, vous craignez aussi d'être boycotté par le président?
Il y a des boycotts, il y en aura de plus en plus.
Et ça vous fait pas
peur? Ça me fait pas peur, ça me fait pas plaisir. Mais il faut qu'on fasse face à cette réalité. Donc c'est à nous aussi d'arbitrer les postures qu'on prend pour passer en étant clair sur les convictions profondes qu'on a. Et les compromis parfois qu'il faut faire, qui ne doivent pas être des compromissions sur ces postures au travers d'une révolution. Merci. De nouveau, c'est la révolution de l'alimentation. On a dit qu'on allait la traverser et qu'on en faisait même un cheval de bataille.
Merci beaucoup Emmanuel Faber, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.